Philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 17 février 94.
Je ne pourrai pas donner de cours la semaine prochaine parce que je serai à Vilnius. La Lituanie nous a dit, vous voyez. Alors, il y aura une semaine aussi, on profitera de cette semaine pour faire une sorte d'examen. C'est surtout pour les étudiants, je ne sais pas si les frères auront ça, je n'en sais rien. Faisons ça avec le père Marie-Dominique. Un examen pour sonder la profondeur de votre intelligence. C'est ça l'intérêt. Hein. On ne doit pas former des forts thèmes, mais plutôt des gens qui réfléchissent. Mais il faut quand même, hein, il y a toujours le mode humain où on est obligé de connaître un peu certaines choses. Alors on fera un examen assez particulier, original. Une originalité métaphysique. Donc très individuelle. Mais en posant une série de petites questions, 5 petites questions. Et vous répondez tout simplement oui ou non. l'acceptation, l'intégration. Ce sont ces mots qui reviennent tout le temps. Et chaque fois, si vous êtes un peu intelligent, vous dites, ah oui, je vois très bien, l'intégration. Il s'est bien intégré. Le suprême compliment. Il est parfaitement équilibré. Suprême compliment. Alors il y a l'équilibre de la grosse bascule qui pèse le bétail et la grosse bascule qui ne bouge que lorsqu'il y a 50 kilos de plus. Et puis la toute petite bascule où il y a un petit poil qui fait que la bascule bouge. L'équilibre. Il y a l'équilibre de la vache. Il y a l'équilibre du chien. Il y a l'équilibre du chat. Il y a l'équilibre de l'homme. C'est curieux ça. L'équilibre remplace la finalité. L'intégration remplace la finalité. Il faut voir l'ersatz de la prudence dans notre monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant de voir l'ersatz. Qu'est-ce qui remplace la prudence? Parce qu'il n'y a plus de finalité. Comprendre comment la prudence, qui est l'intelligence pratique, une intelligence au service de la fin, quand la fin n'est plus là, on disait tout à l'heure, le fondement. Alors, le fondement, vous voyez, l'équilibre provient du fondement. L'intégration provient du fondement. C'est la causalité matérielle. C'est l'élément matériel, le fondement. C'est le pouce de la finalité. Quand il n'y a plus de finalité au sens propre, il y a le comment qui vient le remplacer. Et c'est le fondement. Qui remplace pas du tout, hein, qui étouffe, qui n'y a plus de finalité, mais il y a le fondement. Immédiatement après la prudence, il y a la justice. Oui, au plan philosophique, il faudrait se demander, hein, et on le fera, mais pensez-y. Prudence, justice. passion, on le verra en philosophie du vivant, c'est la passion la plus intelligente. C'est la passion la plus noble, la plus proche de l'intelligence. Et la force, la vertu de force, va venir humaniser, éduquer votre irascible. Parce que si vous laissez votre irascible à l'état sauvage, alors c'est les dents qui poussent et qui prend tout. On mord tout le temps. Et plus on est devant un monde d'injustice, plus on est tout le temps en colère. Dans notre monde d'aujourd'hui, tout nous porte à la colère. Parce qu'on est constamment en face d'injustice. Et là, il faut bien comprendre ce point de vue-là. Vous voyez que là, on essaie de voir comment, à partir de l'amour d'amitié qui donne une finalité, donc la prudence est ordonnée à l'amour d'amitié, qui est la première fin humaine que je saisis. Elle peut être aussi ordonnée à la contemplation. Et ça, c'est déjà l'éthique religieuse. L'éthique humaine, tout court, c'est l'amour d'amitié. Et c'est comme si c'était une finalité. À partir de là, la prudence joue. Un homme prudent, au point de vue humain, c'est celui qui est gardien de l'amour d'amitié. Le gardien de l'ami. C'est puisque c'est la finalité première. Et ordonne son intelligence, toutes les forces vives de l'homme, toutes les forces vives qu'il possède vers cet amour, pour permettre à cet amour de tout le temps demeurer dans le choix amical. Et donc ordonne la volonté, ordonne l'irascible et le concupiscible en vue de cela. Étant donné que le grand ennemi vis-à-vis de l'acquisition des vertus, c'est l'imaginaire. Donc on lutte constamment contre l'imaginaire. Je ne l'ai pas vu, mais il faudra intéressant de montrer à côté de la prudence, corruption de la prudence par l'imaginaire. Et cette corruption de la prudence par l'imaginaire se fait ou d'une manière noble par le point de vue esthétique. La prudence peut se corrompre par une attitude esthétique, ce qui arrive constamment dans notre monde aujourd'hui. Ça, vous le voyez chez Sartre. Quand vous cherchez ce que c'est que la prudence chez Sartre, je prends Sartre parce que c'est particulièrement éloquent chez lui. Mais vous verriez chez certains que le fat-géré, c'est l'esthétique. Ou le travail. Par l'imagination, peut venir corrompre le point de vue de la prudence. La grande lutte aujourd'hui, elle est là. C'est que la prudence se laisse contaminer par l'efficacité. L'efficacité du travail et du faturé. Et l'efficacité corrompt par le point de vue imaginaire. Corrompt la prudence. ça, c'est très important au point de vue éducation. Et je dois mettre des fondements par rapport à l'éducation. Le devenir de la prudence lutte contre ces falsifications de la prudence qui se font par l'imaginaire. Et deux formes d'imagination. Vous avez toujours deux formes d'imagination qui quelquefois se combinent. C'est très curieux. Et ça, c'est net. Et la forme dominante de l'imaginaire aujourd'hui, c'est le facturé. C'est l'efficacité. C'est le travail. Vous avez ensuite l'imaginaire qui vient corrompre. C'est toujours l'imaginaire. L'imaginaire qui vient corrompre la justice. Par le facturé, par le point de vue de l'efficacité, par l'imaginaire. Ou alors, corruption de la justice par le point de vue imaginaire du concupiscible. On voit très bien. Vous voyez, la Côte d'Amour, je mets mes petits amis là où il faut. Et ma justice est aveuglée par ce point de vue de l'imagination liée au concupiscible. C'est-à-dire le plaisir. Le plaisir qui prend des notes érotiques, qui prend des notes, tout ce qu'on veut. Mais c'est les deux corruptions. Et pour la force, on retrouvera la même chose. La vertu de force s'acquiert elle aussi à travers cet imaginaire transformé par le point de vue du facturé ou du concupiscible. Et la tempérance également. Ceci pour vous montrer et vous rappeler que l'acquisition des vertus pour nous se fait toujours dans la lutte. Je constate ça au point de vue philosophique. Le théologien donnera la raison. C'est qu'il y a des conséquences du péché originel. Et ça, le philosophe ne peut pas le dire. Il s'aperçoit qu'il y a une lutte terrible. Donc c'est dans la lutte. Il y a une lutte terrible. Et il ne sait pas très bien comment et pourquoi. Mais c'est pour ça que l'éducation ne peut être parfaitement efficace que si elle est chrétienne. Et vous comprenez pourquoi? Parce que seule l'éducation chrétienne me fait comprendre que il y a les concupiscences. Et donc la lutte s'éclaire par les trois concupiscences. Si je ne suis pas chrétien, je ne les connais pas. Et donc, je ne connais pas l'ennemi. Dans une lutte obscure où on ne connaît pas l'ennemi, on tombe toujours dans le piège. Les concupiscences sont pour la psychologie. Pour celui qui n'est pas chrétien, les concupiscences sont connaturelles avec mon être. Alors on dira, c'est une question de tempérament. Il n'en peut rien, c'est son tempérament qui est comme ça. Il est toujours en colère. Oh, ne vous inquiétez pas, depuis qu'il est tout jeune, il y a un attrait terrible vers le concupiscible. Faut pas vous inquiéter, il est comme ça. Mais alors on identifie les concupiscents, les trois concupiscibles avec la nature. Et c'est vrai, psychologiquement, vous pouvez pas faire la distinction. Je prends la psychologie en elle-même. C'est là où on voit que très bien qu'il peut y avoir une véritable éducation efficace que si elle est chrétienne. Et alors parce qu'il n'y a qu'une éducation chrétienne, on dira qu'il n'y a pas d'éthique philosophique. On confond éducation et éthique. L'éducation est dans l'ordre de l'exercice. philosophe appellera ça les forces du mal. Il ne pourra pas préciser, il ne pourra simplement préciser qu'il y a chez certains une propension vers l'égocentrisme du concupiscible. Chez l'autre, il y a une propension vers la domination de l'irascible. Chez l'autre, il y aura une propension, chez lui, de l'anarchie. Ce sont les trois grandes propensions. Vous voyez, qui remplace les trois concupiscibles. Qui les rendent humaines, si vous voulez. C'est vrai, je peux voir que j'ai ce petit bonhomme qui pousse. Il y a une propension énorme vers la jouissance. Chez l'autre, une propension énorme vers l'exaltation de soi. Chez l'autre, une propension énorme vers l'anarchie. Ça c'est philosophiquement, je peux très bien constater ça. Et la psychologie met en face de ça. Et très souvent, ces propensions se traduisent, voyez, dans une attitude d'angoisse, dans une attitude d'aliénation, dans une attitude de culpabilité. C'est tout à fait normal, tout ça. Alors ça, c'est le marécage. C'est le marécage psychologique. Parce que vous ne savez pas, vous nommez pas les choses. Vous avez peur de les nommer. Quand on dit le mal, c'est l'anonymat. Le démon se cache très bien. Alors pour le philosophe, c'est le mal. C'est l'anonymat. Et quand vous êtes dans la lutte et que vous êtes en face de l'anonymat, c'est terrible. Parce que vous perdez votre force dans l'anonymat. Et alors c'est immédiatement l'angoisse, la culpabilité, tout ça. C'est ça que j'appelle le marécage. Parce que c'est un marécage. L'angoisse, c'est un marécage. La culpabilité, c'est un marécage. Vous savez plus où mettre le pied, où il faut, parce que vous savez pas où sont les mines qui vont sauter. Le théologien précise, il y a trois concupiscences. Le théologien précise, il y a circuit querens que dévorent. On vit dans la lutte. Il y a le démon qui tient toutes les ficelles. Toutes les ficelles. Une partie des ficelles. Il croit les tenir toutes. Mais il n'en tient qu'une partie. Il tient les ficelles de la concupiscence, de toutes les faiblesses qui sont en nous. Donc, il faut bien comprendre la complexité de cette lutte. Ça, je crois que c'est très très important. Alors, essayons de comprendre à l'intérieur de notre concupiscence, de notre irascible, à l'intérieur de notre irascible. Nous met tout le temps dans un état d'opposition. L'irascible nous met dans un état d'opposition et nous met en présence des difficultés. Les difficultés, c'est les oppositions. Comment se fait-il que dans toute communauté dans laquelle je me trouve, il y a toujours quelqu'un qui est contre moi. Pourtant, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Tout le temps, quelqu'un qui est là. Dans toute communauté, c'est comme ça. Alors, on universalise, vous voyez, l'anonymat. Et on projette sur l'autre, sur tel ou tel, cette espèce d'état d'opposition qui est en nous. Notre racine nous met dans un état d'opposition. Dans un état réconciliation, c'est l'ennemi, c'est l'autre, c'est l'enfer. Et on voit très bien la dégradation, et c'est comme ça l'irascible. Il faut que notre intelligence prudentielle, que notre intelligence pratique, qui cherche à aimer et à tout ordonner vers l'amour d'amitié, donc vers l'unité, la réconciliation, il faut que notre intelligence pratique arrive à découvrir à travers notre irascible ce qu'il y a de bon de notre jeunesse. Quand l'autorité paternelle ou des maîtres qu'on a eus a été trop forte, il a brisé notre irascible. Oui, l'irascible, il est toujours en face de l'autorité. Alors, dans notre jeunesse, on a eu des autorités inflexibles, quelquefois, qui ont brisé cet irascible. Et alors, on le retrouve tout le temps, phénomène de répétition psychologique. On retrouve toujours ça, et on s'oppose à ça. Parce qu'on a trop peur d'être écrasé, de ne plus avoir la dignité humaine suffisante, d'être écrasé. Et on lutte pour redécouvrir en nous la force. Un irascible qui est au service de l'amour. Et non pas un irascible qui aime de lutter pour lutter. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand leur irascible n'est pas ordonné à l'amour, ils aiment de lutter. Et dès qu'ils sont là, immédiatement, il y a le drame. Il y a des tensions. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Il y a des psychologies qui amènent immédiatement les luttes. Pourquoi ? Parce que ces psychologies aiment la lutte. Elles font des déclarations de paix plus qu'elles peuvent. Mais en réalité, elles aiment la lutte. C'est curieux de voir comment on aime la lutte. On aime les petits chiens qui aboient. Parce que les petits chiens qui aboient, hein, ils aboient. Mais dès que vous montrez que vous êtes un peu fort, ils filent à toute vitesse. Tandis que les chiens méchants n'aboient pas, ils mordent. Là, vous voyez très bien ce que c'est que l'irascible. Il y a le petit art irascible surfait qui aboie tout le temps, tout le temps. Et dès qu'il est en face de la force, il se tait. Regarde à vous. Alors qu'il y a un irascible beaucoup plus fort qui lui combat. Mais on a pu avoir un irascible cassé par sa jeunesse. Cet irascible cassé par notre jeunesse se récupère dans les aboiements du petit chien. Il y a un irascible qui a progressé sans avoir en face de lui une autorité qui l'a maîtrisé. Et donc, il a poussé. Il a toujours été un peu le petit coq. Il continue de mordre au bon moment. Il n'en rate pas une. C'est un irascible fort. Et il faut dépasser ces deux points de vue psychologiques pour arriver à faire que notre irascible soit cultivé. Parce que l'irascible par lui-même est favorable aux fièvres. C'est-à-dire que ça monte. Ça boue. Qui n'est pas la vraie ferveur. L'irascible nous donne une ferveur passionnelle. Et une ferveur passionnelle qui est passagère, qui ne tient pas. Et qui masque la vraie ferveur qui vient de la volonté, qui vient de l'amour. Il faut donc arriver à dominer cet irascible, ce qui est très difficile. Dominer notre irascible pour que la vertu de force apparaisse. Et la vertu de force, c'est l'emprise de l'acte prudentiel sur notre irascible. Je ne peux pas poser un acte vertueux sans la prudence. Je ne peux pas poser un acte vertueux de force sans la prudence. Et tant que je n'ai pas acquis la prudence, je suis en voie de l'acquérir. Et c'est alors l'opération rationnelle prudentiel qui vient de l'intérieur. Parce que les racines, c'est toujours un bien difficile que je cherche. Faut pas l'oublier, c'est un bien difficile. Alors, vous voyez, c'est très curieux, ça. Si les racines regardent un bien difficile, donc ils maîtrisent notre irascible. La vertu de force va maîtriser notre irascible. Un bien difficile. Ça te va dire un bien ardu. Je crois qu'il faut dire un bien difficile. Alors, l'irascible, livré à lui-même, regarde le difficile, l'ardu. Et on aime la lutte. On aime la lutte. Pourquoi ? Parce qu'on aime d'être victorieux. On aime de manifester sa force. Alors, dès qu'on est là, tout de suite. Ça, c'est comme ça. Ça existe, ça. Il faut bien le comprendre. Et la vertu de force va mettre le bien en pleine lumière. On sait que la difficulté existe. Mais la difficulté, elle est dans le bien. Tandis que l'irascible livré à lui-même ne voit que la difficile. Alors, le difficile, où on est victorieux, où on est battu, t'avances devant la difficulté. On baisse les bras. Et on essaie de se récupérer. Toujours. Alors, on se récupère par des astuces, n'importe où. On cache sa faiblesse. On n'aime pas de montrer qu'on est faible. Alors on cache sa faiblesse. Vous voyez, ces trois positions hein, qui, je crois, sont tout le temps constantes quand on regarde ce que c'est que l'irascible. La position vertueuse, on met le bien devant. C'est le bien qu'on regarde. Et le bien fait l'unité. On regarde la difficulté où on est victorieux. Dieu s'appartient. pérégrination, le mal en bien, en apparence de bien. C'est l'astuce des démons, ça. Alors qu'on doit discerner par la prudence ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la prudence, ça. C'est pas l'irascible qui permet de faire ce discernement. C'est pas le concupiscible, non. C'est la prudence dans l'irascible qui permet de faire ce discernement. La vertu de force, donc, c'est l'intelligence pratique par l'acte prudentiel qui s'installe dans l'irascible du dedans et qui fait que cet irascible est mis au service de l'amour. Alors les deux grands actes de la vertu de force, c'est de savoir bâtir la patience. Et l'autre force, c'est d'attaquer. La vertu de force a ces deux aspects, la patience. Et l'acte principal de la vertu de force, c'est d'être capable de bâtir. On est fort quand on bâtit, quand on sait bâtir pour l'amour. Ce n'est pas l'attaque qui manifeste en premier lieu la force. Parce qu'on peut attaquer, c'est-à-dire aboyer, parce qu'on a très peur. Alors on attaque pour se donner un peu de force et un peu de courage. C'est pas la vertu, ça. C'est tout simplement une fragilité que nous connaissons très bien en nous et qui nous fait lutter pour voiler cette fragilité. Alors on aboie. Rien n'est plus terrible que le silence pour les racines. Alors on doit faire du bruit d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas rester dans le silence. Bâtir et bâtir avec force, c'est d'accepter le silence et de lutter dans le silence. Et accepter de ne pas voir les résultats.